On va mettre du kérosène dans la radio aujourd'hui avec Adeline Dieudonné. Merci de nous dire bonjour.
Ben merci à vous de me recevoir.
Voilà, il y a Boubou Noader qui est avec nous, qui est notre spécialiste lecture, hein, consonne voyelle, c'est pour lui.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Voilà, invité exceptionnel, condition exceptionnelle. Adeline, on ne va pas se mentir, on se connaît depuis longtemps. Hein.
Oui, oui.
Je dois me concentrer pour t'appeler Adeline d'ailleurs, tu vois ce que je veux dire. Et puis à un moment, est-ce que ta partie artiste, elle s'est pas déclenchée quand je t'ai vu arriver dans la mouvance de l'improvisation?
Si, oui, complètement, tu as tout à fait raison. J'avais 15 ans,
oui.
Quelque chose comme ça. C'est vrai qu'avant ça, j'avais pas vraiment d'activité artistique.
Un peu Oliver Twist, hein, garçon manqué, fonceuse, oui. Moi c'est comme ça que je t'ai connu.
Ouais,
et puis en disant, dans l'improvisation, soit ça soude le mur, soit ça ouvre la brèche. Et là, toi, ça a déclenché beaucoup de choses en fait. Hein.
Ça a déclenché beaucoup de choses, oui. Alors je suis pas une grande improvisatrice non plus, c'est pas un truc dans lequel j'ai un talent de fou. J'ai jamais brillé sur les patinoires, mais par contre ça m'a appris énormément de choses sur l'écriture, évidemment, sur la démarche artistique, mais aussi dans la vie en fait. C'est un super outil l'impro, c'est incroyable, même au niveau philosophique, je trouve, de d'apprendre à recevoir ce que le monde nous envoie, de l'accepter et puis de le renvoyer. C'est vraiment ça l'apprentissage de l'impro, c'est d'accepter l'information qu'on nous envoie, de la traiter et puis de la renvoyer. Et voilà, et c'est vrai que ça m'a donné cette liberté, cette façon de créer, qui est de s'attacher aux petites choses, en fait, de ne pas chercher intellectuellement ou de façon cérébrale à créer une histoire de façon un petit peu extérieure, comme ça, ex nihilo, mais plutôt de se concentrer sur ses émotions et vraiment de laisser les émotions nous guider. Et ça, c'est un vrai apprentissage de l'impro et qui me sert non-stop dans l'écriture.
Personne ne le sait, mais on le rappelle, tu as travaillé pour Philippe Geluck aussi, hein, pendant quelques temps.
Oui, tout à fait.
Donc,
tout à
voilà,
fait,
oui. Plus tu en retiens, par exemple.
J'ai adoré, c'est une de mes plus belles expériences professionnelles. Parce que donc, j'ai fait plein de boulots différents, mais notamment, c'est vrai qu'à un moment, j'étais assistante de réalisation quand ils faisaient la série animée du chat. Et c'était une magnifique expérience. Parce que Philippe est quelqu'un, mais qu'il est vraiment très agréable de travailler, il est bienveillant, il donne la chance aux gens aussi. Et donc, j'avais l'opportunité. J'avais une grande liberté et l'opportunité de travailler en toute autonomie et avec quelqu'un qui me faisait confiance et une super équipe autour de moi. C'était
très bien, on va se retrouver un peu en morceau de musique. Pop rock, ça te va ça?
Ah oui.
Oui, très bien, pop rock, c'est parti. C'est pas du Rammstein. Hein. on est avec Boubou Noader qui est avec nous et elle nous fait le plaisir d'être là. Adeline Dieudonné qui est une nouvelle star de l'écriture belge, puis cartonne. Hein. On va parler de la vraie vie, puis de kérosène avec notre ami Boubou Noader. Simplement, La vraie vie vit encore, hein. Le bouquin se vend encore pas mal. On va bientôt le voir sur scène, on l'espère, avec un magnifique metteur en scène qui s'appelle Georges Ligny. Hein.
Absolument.
C'est quoi l'histoire? T'es allé vers lui, il est venu vers toi?
Il est venu vers moi dès la sortie du livre. Il m'a envoyé un petit message sur Facebook en me disant bah, si vous aviez envie de l'adapter pour la scène, je serais ravie de vous accompagner. J'ai dit oui tout de suite parce que j'adore le travail de Georges et je trouve qu'en plus nos univers étaient faits pour se rencontrer. Et donc, il a fait une distribution qui est absolument
Isabelle
incroyable.
Isabelle de Fossé
qui est un génie.
Et puis Riton Lindemann, on se souvient,
qui est aussi
un génie, un homme incroyable. Donc on espère le voir bientôt, au mois de juin.
Alors au mois de juin, première quinzaine de juin, si tout va bien.
Et là tu montes sur les planches aussi, tu es un peu comédienne aussi, on a parlé d'improvisation, mais tu as un rôle aussi.
Ah oui, absolument.
Tu te l'as imposé ou tu as dit tu as fait la déesse, moi je vais être dedans, ou comment c'est passé?
Non. J'aurais pas osé faire ça. Non, c'est Georges qui, on prenait un verre et tout à coup il a dit ah ben tiens j'y pense, au fait est-ce que tu auras envie de jouer dedans, de jouer le rôle de la narratrice? Et j'ai dit mais oui, enfin voilà, pour moi c'était un honneur de travailler avec des gens comme Georges, comme Isabelle, comme Riton. On a aussi trois jeunes garçons qui jouent Gilles en alternance et qui sont absolument fabuleux, et toute l'équipe autour de Georges qui est vraiment fabuleuse. Donc non, j'étais extrêmement honoré de cette proposition.
Avec un décor qui est fait par des gens fantastiques, je le dis parce que c'est mon neveu Charlie Clenormand que j'embrasse parce qu'il nous écoutera, et Thibaut de Coster. Je laisse la parole à bout, mais simplement, pourquoi kérosène est dédicacé à ta maman?
Bah parce que La Vraie Vie était dédicacée à mes filles et que voilà, ma maman a une place extrêmement importante dans ma vie et forcément c'est ma maman, mais on a une relation qui est extraordinaire. On s'appelle tous les jours et donc celui-ci, j'avais envie de le lui dédicacer parce qu'elle m'aide aussi professionnellement énormément. Elle m'accompagne.
Donc, ça, elle y va. Hein. Elle tapisse hein, pour l'instant. Le prochain bouquin sera pour Pierre alors.
Voilà,
très bien. Bou, vas-y, Kérosène, je l'ai lu aussi et voilà.
Magnifique. Ouais. Chère Adeline, quel bonheur de rencontrer tous ces personnages bien équilibrés, voire bien déséquilibrés dans leur mode de vie, changement de vie, ou lorsque l'une ou l'autre voit clair dans ses choix personnels, comme les 5000 mots adorables de Julian, que l'on se délecte à redécouvrir. Le sang et le sexe forment un élixir détonnant, provoquant rire et suspense à la lecture de ce thriller comédie, où la parole et la pensée sont même données aux animaux, dont les gestes sont la conséquence du comportement humain. Quel lieu magique cette petite station essence, un vrai monde bien organisé, bouillonnant d'énergie, alimenté par le kérosène de votre écriture. J'attends avec impatience une suite, surtout avec mes préférés Chelly et Julie. Ce matin, j'ai lu à haute voix à l'université l'extrait de Julie. Est-ce que notre société ressemble à tout cela ? Avons-nous dans nos gènes tous ces gènes qui pimentent vos personnages ?
Attends, on va se retrouver après un morceau de musique parce que comme ça on séquence tout. J'ai une question, ton père était dans les Michel Vaillant, un personnage, il sait voir, et moi j'adorais les chaf-chaf quand elle mange des chips, voilà, on se retrouve tout de suite. On est toujours avec Boubou Noiner, beau texte sur Kérosène, hein. Kérosène c'est le nouveau livre dans les bacs depuis cette semaine.
Hein. Oui, depuis le 1er.
1er avril, et ce n'est pas une blague, on s'est enregistré aujourd'hui le 2 avril, on l'écoutera plus tard l'interview, mais tu es aujourd'hui chez Filigrane, encore, hein, donc notre soutien à notre ami Marc. Vas-y, Boubou.
Difficile en fait de poser des questions tellement il y en a, et ma question c'était sur les fameux gènes qui pimentent vos personnages. J'ai l'impression qu'on a toutes ces composantes en nous, tuer quelqu'un ou faire autre chose, violer parce qu'on a envie d'avoir quelqu'un, etc. D'où ça vient tout ça?
Bah ouais, effectivement, on a un petit échantillon de l'humanité qui se croise dans cette station-service. Et c'est vrai que c'était ça qui me fascinait avec ce décor de la station-service, c'est qu'on a les gens qui se croisent. On peut croiser n'importe qui et toutes les couches sociales sont présentes. Et donc, on a un échantillon qui est assez gratiné, mais peut-être aussi assez représentatif.
Oui, tout à fait.
On a une très vieille dame de 90 ans qui est un petit peu le personnage qui traverse tout le récit. Que son petit-fils veut emmener dans une maison de repos et elle refuse ce destin-là parce qu'en fait il l'infantilise complètement alors qu'elle est encore tout à fait apte à se débrouiller. Je vais pas citer tous les personnages, mais c'est vrai que c'est assez foisonnant et oui, moi je me laisse vraiment guider par mon écriture et par les personnages, mais c'est vrai que je pense qu'on a quand même pas mal d'aspects de notre société avec tous les rapports de domination qui sous-tendent le livre.
Ouais. Et alors, idée très intéressante ou ingénieux, c'est que cette station devient le centre giratoire de l'histoire. C'est un carrefour, en fait.
Oui, tout à fait. Mais oui, c'est ça. Parce que la grande question que je me posais, c'était qui est-ce que... ce qui est fascinant, c'est comment est-ce que les destins peuvent être liés, comment nos destins peuvent être liés à des gens qu'on ne connaît pas et qu'on n'est pas voué à rencontrer.
Elle existe, cette station ? Ou bien tu l'as tout à fait inventé. Tu t'es basé sur les stations existantes.
Alors, vraiment sur l'architecture, moi, dans ma tête, c'est la Sébierge.
Mais j'avais compris. Ouais. Donc, on espérait cette réponse. Et puis, vous êtes combien dans votre tête pour écrire tes bouquins?
Je sais pas.
Il faut compter le nombre de personnages.
Incroyable. Donc, c'est très bien. C'est un travail d'écriture. C'est laborieux pour toi, l'écriture, ou c'est fluide?
Non, c'est du travail. C'est du boulot et c'est relativement... Je dis pas que j'ai que du plaisir à écrire. C'est aussi un petit peu de douleur.
Alors, à la fin, on a envie de plus. Et
c'est
Pierre,
très énervant. Moi,
voilà,
j'ai
eu la même réflexion que moi.
Je me dis, tiens, c'est un truc qui se lit de droite à gauche. Donc, on ne va pas révéler la fin, hein,
non,
sait que l'assassin, c'est le juge. mais parce que la fin est surprenante.
Oui.
Elle est suspensive, on va dire.
Ah non, pour moi je réponds à la question à la fin, mais c'est vrai que vous n'êtes pas les seuls à me dire que...
Merde,
que...
on a mal lu quoi, non ?
Non, c'est peut-être moi qui n'ai pas été assez clair, j'avais pas envie de trop
surligner. En tous les cas, il y a plusieurs niveaux de lecture.
Voilà, exactement. Tout à fait.
C'est ce que je préconiserai dans la prochaine chronique, qu'il est à lire à tous les degrés.
Tu sais quoi, se retrouver après un peu de musique et on va parler de ton avenir, de ta vie, de ta vision du monde qui nous intéresse très fort. À tout de suite. Toujours avec Boulmander, qui est professeur de gymnastique, mais il fait jongler les mots hein, aussi. Et Adeline Dieudonné qui fait le plaisir d'être là. Adeline, on rappelle La Vraie Vie, c'est quand même un carton. Hein. Rappelle qu'un best-seller en Belgique, c'est 2500 livres. Toi, c'est 300 000. Avec le Poche qui a fait beaucoup de succès, donc le fait que ce soit édité en poche, avec les éditions Iconoclaste qui ne savent toujours pas comment ils s'appellent depuis qu'ils t'ont fait signer. Quel est ton avis? Tu es encore bien impliqué, on t'entend régulièrement sur la première avec toute la bande Simonis et Ministru et Thomas Gunzik que tu cites dans le livre à la fin. Donc il a travaillé avec toi?
Il n'a pas travaillé avec moi, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est toujours très présent, à qui c'est mon premier lecteur, c'est à lui que je vais faire lire mes textes en premier. Et c'est vrai que quand je me pose des questions, quand il y a des choses qui ne vont pas, c'est à lui que je m'adresse. Donc oui.
Il est complaisant ou il est pas complaisant?
Non, il est plutôt très très encourageant et ouais, ça lui arrive de me dire moi à cet endroit-là je suis pas sûr ou je comprends moins bien, mais globalement il est vraiment très bienveillant et moi j'ai besoin de ça. Vraiment, pour avancer, j'ai besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi qui m'encourage et qui me dit que c'est super ce que je suis en train de faire. J'ai vraiment besoin de prendre confiance. Oui.
Il y a un côté Al Hartley, hein, tu connais le cinéma américain Al Hartley, regarde un jour, parce que tout se passe, il y a toujours dans les stations-service un mec qui joue de la guitare au milieu du désert. Bouh. À toi, tu as une question encore.
Oh, j'ai plein de questions, moi je les garde pour la suite, mais disons dans les relations de couple comme ça, est-ce que il est important de s'afficher, d'être soi-même et de ne pas être comme l'autre le souhaite?
Ben oui, évidemment.
La réponse est dans la question.
Oui, non, moi je crois qu'il faut vraiment se conformer au regard de l'autre.
Non mais c'est important, vous dénoncez aussi beaucoup de choses dans les personnages. Et on rit puisqu'il y a la thèse et puis tout de suite, inattendu, attention, l'antithèse. Et puis on se dit, ouais, c'est comme ça qu'il faut répondre.
Mais c'est gentil.
Je rassure tout le monde, elle n'a pas fait la bringue, mais tu es en tournée de promo, donc tu as une voix qui coince un petit peu.
Hein, ah oui, je suis désolée. Moi,
elle a une belle voix de chanteuse.
On dirait BJ's Cat.
Et donc oui, on dénonce vraiment, il y a quand même aussi une envie de dénoncer ou de mettre en avant les choses qui ne vont pas, qui ne tombent pas rond.
Mais alors non, c'est pas une volonté, parce qu'au moment où j'écris, j'intellectualise pas du tout.
D'accord.
Et je crois que si je faisais ça, il y a des auteurs qui le font super bien, hein, qui avant de commencer à écrire leur livre, se posent la question de quel thème, quel sujet de société ou quel message j'ai envie de délivrer. Moi, si je faisais ça, je pense que ce serait raide, ce serait préchi-précha.
D'accord.
Et les gens n'ont pas envie de ça quand ils lisent. Moi, j'ai pas ce talent-là. Donc moi, j'écris en complète liberté, je me laisse guider par les personnages. Mais c'est vrai qu'à posteriori, quand je me retourne sur les histoires, je me rends compte qu'effectivement, tous mes questionnements ou toutes mes indignations sointent à travers le. Et mes obsessions aussi, parce qu'il est vraiment question de.
Voilà. Un cœur de la musique, c'est toujours pas du Rammstein. Je rappelle qu'Adeline travaille avec du Rammstein. Écoutez un morceau de Rammstein un jour, vous comprenez mieux pourquoi elle écrit Kérosène. Hein. C'est pour rire. Mais on va parler de ton rôle maintenant, de ta perception, si ça change. Le regard des gens ont changé vis-à-vis de toi. C'est bon, un peu de musique, hein, Beau.
Très bien.
Beau Noadé nous a rejoint. C'est une interview un peu spéciale avec quelqu'un un peu spécial. Tu es engagé pour défendre les femmes, hein, on l'entend régulièrement sur la première. Tu es maintenant, j'imagine que les gens viennent vers toi de manière plus spontanée parce que tu représentes plus de choses qu'avant. Ta vie a quand même été bouleversée hein, par rapport à la vraie vie. Est-ce que c'est un poids ça ou c'est un adjuvant?
Oh non, c'est une liberté énorme parce que j'ai vraiment souffert de toute une partie de ma vie, d'avoir du mal à trouver du boulot et puis d'avoir une frustration aussi par rapport au champ artistique. J'avais des choses à exprimer, mais c'est très difficile en fait d'avoir la parole, d'avoir accès à la scène ou d'avoir accès au cinéma. Enfin, donc d'avoir un rendez-vous avec un producteur, c'est des choses qui sont vraiment pas évidentes. Et donc d'avoir cette liberté-là aujourd'hui, de pouvoir me dire, tiens, si j'ai envie de développer un projet, si j'ai quelque chose à dire, je peux aller voir une radio, un théâtre, un producteur de cinéma ou un éditeur, et qu'a priori, je vais avoir mon rendez-vous, je vais être écoutée, c'est génial.
Alors, il y a beaucoup de sexe, et c'est vrai, en tant qu'auteur,
du
en tant
cul, que... du cul,
je me dis, ah, ça me gêne, et puis non, après je me dis, y a, le sexe est aussi est un accessoire très important, et à quelquefois, il sert d'outil, voire d'arme.
Oui, oui, complètement. Oui, oui.
Et donc voilà, on peut prévenir aussi que c'est un livre à ne pas mettre dans toutes les mains, mais au lecteur de ne pas être choqué.
Oh, oui, non, je pense qu'il n'y a pas, non. Effectivement, il n'y a pas à être choqué. Après, c'est vrai que ouais, peut-être aussi que je me suis un petit peu lâchée parce que dans la vraie vie, comme c'était ouais. une narratrice, une enfant. La sexualité pouvait. Enfin, il y avait une place pour la sexualité dans la vraie vie, mais qui n'était pas. Je ne pouvais pas tout faire tout non plus. Là, c'est vrai que je me suis amusée. Et c'est vrai que la sexualité est vachement présente dans Kérosène. Alors, après, dans des aspects qui sont plutôt minables, plutôt. Ce n'est pas une super sexualité.
Non, mais c'est humoristique et c'est ça qu'il faut retenir.
C'est, oui, c'est assez drôle, c'est assez jubilatoire.
Oui, voilà, exactement.
Ça détend. Il y a un côté cathartique aussi, mais et oui, effectivement, il y a un personnage qui prend sa revanche.
Et puis, il est boomerang.
Ouais,
il est boomerang, il nous revient dans la figure. Et voilà.
Ouais.
Donc, je me réconcilie avec le sexe.
Mais c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux que ce que tu vis maintenant, en fait, Ali ?
Honnêtement, rien. Rien.
Non.
Non, vraiment, là je suis comblée, c'est fabuleux. La Kérosène est sortie aujourd'hui, donc on est le 2, il est sorti depuis hier. C'est déjà un succès, c'est hallucinant. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à transformer l'essai à ce point-là. Donc non, il y a franchement...
Tu avais peur un moment, on ne va pas tomber le syndrome de la page blanche, mais la confirmation d'un vrai succès. Ça t'a fait peur ?
Oui, bien sûr, ça m'a fait très peur. Oui, ça a été compliqué d'écrire mon deuxième avec cette pression-là, oui.
C'est vrai ? Et qu'est-ce qui se passe alors ? Comment tu trouves les solutions ? Maison d'édition qui est jeune aussi, qui apprend en même temps que toi, ou en tous les cas qui apprend très vite aussi. Première fois qu'ils avaient un tel succès, il faut apprendre à gérer aussi, donc j'imagine.
Oui,
vous avez grandi
fait.
Ensemble.
Oui, exactement. Mais donc là, du côté de ma maison d'édition, ils sont fabuleux, ils sont vraiment... Je peux pas rêver mieux. Et d'ailleurs, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train d'écrire un roman... et qui traitait de collapsologie et de survivalisme. Et donc, je l'écrivais avec beaucoup de pression, avec beaucoup de tension. Et il y a un an, quand le premier confinement est arrivé, en fait, ça m'a complètement bloqué parce que l'actualité rattrapait mon roman. Et là, donc j'étais complètement bloquée. Et c'est là que ma maison d'édition m'a dit, écoute, fais-toi plaisir.
Enfin, oublie tout.
Ouais, oublie tout et écris pour ton plaisir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire Kérosène.
Très bien, on va laisser le mot de la fin à bout. Hein. Merci encore Adeline.
Un livre à lire et à prendre au degré que l'on souhaite, un thriller riche de messages à prendre au vol sans oublier de faire le plein de bonne humeur ou de kérosène. La vie est drôle, tendre, triste et dramatique à la fois. Prenons-la du meilleur côté. Kérosène, c'est chez l'Iconoclaste, écrit merveilleusement par Adeline Dieudonné. Bonne lecture.
Et comme dirait le Cirque Plume, si vous avez aimé Kérosène, vous appelez, vous en parlez à vos amis. Si vous n'avez pas aimé, vous faites une blague insupportable à vos ennemis. Merci beaucoup Adeline d'être venue.
Merci beaucoup.